Griffe. Les cultures bizarres.
Les cultures bitacées, présentées par Aurélie.
D'abord technicienne de scène, elle quitte ensuite les gros câbles électriques pour empoigner les gros stylobies. Elle est auteure, dramaturge pour le théâtre et même poète. La semaine prochaine, son aventure d'écriture, elle l'amènera dans une capsule de survie. Son projet s'appelle Frost, à la frontière entre un spectacle et une performance live d'écriture. Elle s'appelle Antoinette Richner, elle est neuchâteloise et pendant une heure, elle ouvre la bouche d'aération de sa capsule pour diriger cette édition des Cultures Bitacées. Antoinette Richner, salut.
Salut Aurélie.
C'est difficile à croire, mais oui, hein, pour ta prochaine création au Temple Allemand à la Chaux-de-Fonds, t'as décidé de t'enfermer dans une capsule de survie, avec même une deuxième auteure dans une autre capsule de survie. Du coup, l'air libre des studios de Griffe, ils sont quoi ?
Ça fait du bien de sortir, c'est vrai. Tout d'un coup, j'entends des voix humaines, je peux voir des vraies personnes en chair et en os.
Et on entend même les cloches là au loin.
C'est merveilleux.
Depuis ta capsule, tu as aussi bossé pour nous. Tu as dû choisir les sujets des chroniques de la semaine. Ça a l'air d'avoir été assez facile en fait. Le rôle de chef, c'est un peu une seconde nature, Antoinette Richner.
Le rôle de chef, tu dis ? Non, moi j'ai plutôt de la peine avec l'autorité. Donc sur le coup de Frost par exemple, j'étais bien contente d'avoir un metteur en scène qui prenne les choses en main, l'organisation, tout ça. Puis moi de pouvoir me planquer derrière mon clavier, ça m'allait bien.
En tout cas, nos chroniqueurs à nous ont subi ta deuxième nature. Et ils t'adressent un message avant de se mettre au boulot.
Les cultures bitacées.
La rédaction veut te parler.
Salut Antoinette, c'est Steve. Tu nous as lancé sur les traces d'un animal étrange, le bayou. Un rappeur que tu as entendu improviser au coin d'un feu durant une fête quelconque. Eh bien, après investigation, le bayou, ce n'est pas une personne, c'est une chanson.
Né dans le bayou entre cafards et crocos, papa casse des cailloux, maman fait des tours en moto. On habite une grange près du canal, mais en fait de planches sans clous, ça paraît étrange mais c'est banal.
Elle figure sur le livre-album Rap Story sorti en 2011 et c'est Mans One qui est donc ce fameux rappeur du bayou et du coin du feu. Et lui, quand il fait pas de disque, il est effectivement freestyler. Je t'expliquerai ce que c'est que cette drôle de bestiole de freestyler. Même qu'on a pu l'approcher sans se faire mordre.
Salut Antoinette, c'est Mike. Tu nous as demandé, comme ça, pouvez-vous chroniquer le livre d'Odile Cornu ? Pourquoi veux-tu que ça rime ? C'est une question qui aurait pu être dans le livre d'Odile Cornu, tellement il y en a des questions. Qui ? Pourquoi ? Comment ? Est-ce que c'était avec le chandelier dans le salon ? Avec quelle arme ? Écoute, je ne sais pas. Le seul truc que je sais, c'est quand on va chroniquer ce livre. Et ça sera dans cette émission.
Odile Cornu et Mans One, un menu roman concocté par l'invité du jour, Antoinette Richner. Le programme que tu as préparé te convient, Antoinette ?
Je dis surtout bravo d'avoir retrouvé Mans One. Je ne connaissais même pas son nom, j'ai déjà la honte.
C'était une investigation à la hauteur de nos chroniqueurs. La culture, Antoinette Richner, c'est comme le lait, il est meilleur quand il vient de tout près.
Ben disons que justement, Mans One, je l'avais entendu freestyler au coin du feu, comme l'a dit le chroniqueur, mais c'était pas une soirée quelconque, c'était dans les Franches Montagnes, je tiens à le dire.
Dans les Franches Montagnes, en plein milieu du Jura. Pas trop loin des Franches Montagnes, à la Chaux-de-Fonds la semaine prochaine, Antoinette Richner présente son projet. Ça s'appelle Frost et c'est de ça dont on parle.
Les cultures bitacées.
Sorti de ta capsule de survie parce que ton projet s'appelle Frost et il sera présenté la semaine prochaine au Temple Allemand. Et pendant ce spectacle, Antoinette Richner avec une autre auteure, vous êtes toutes deux enfermées dans des capsules de survie.
Eh ben ouais, le théâtre c'est quand même pour se faire plaisir aussi. Donc moi j'avais envie de remettre l'auteur un petit peu dans l'ici et maintenant du théâtre, de le mettre sur le plateau, voir ce qui se passe, s'il écrit en live en fait. Et puis, bon, comme on n'est pas des comédiennes, puis qu'on ne va pas se payer la honte à commencer à parler, on n'a pas envie qu'on nous voit forcément, on a quand même le petit réflexe de se cacher un peu. Ça nous arrangeait bien d'être dans des capsules de survie. Donc, ce qui va se passer dans cette fiction, qui est une fiction post-cataclysmique, comme on dit, c'est vraiment l'histoire d'une fin du monde. Donc, au début, tout va bien. On a deux filles qui en ont juste un peu marre de la ville, de la pollution, des réseaux sociaux, qui veulent se couper du monde. Partir dans le Grand Nord, donc elles vont chacune s'isoler dans une sorte de petite cabane capsule. Et puis là, détail de scénario, il y a juste le monde qui s'écroule pendant qu'elles sont enfermées là-dedans. Donc tout à coup, leurs petits téléphones satellites ne marchent plus, elles sont complètement en perdition, larguées, puis elles ne savent pas ce qui se passe. Ça, c'est le point de départ. Voilà. Puis là-dessus, on va avoir tout d'un coup une sorte de survivant qui commence un grand voyage, puis on ne sait pas vraiment depuis quelle époque il nous parle, on ne sait pas vraiment quelles sont ses raisons de partir.
Donc en plus des deux auteurs qui sont dans des capsules, ouais, on a un acteur sur scène qu'on peut vraiment voir et presque toucher.
Alors, incarné à fond, c'est un homme, on va presque le voir à poil à un moment, donc wow. Venez. Et lui, en fait, il est là avec sa voix, avec son corps. Et puis, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Alors, c'est un peu ces deux modes d'expression sur scène. Les mots donc, qu'on écrit, Julie et moi, les écrivains, ils sont projetés, vidéo, projetés sur plein d'éléments de scéno et puis sur scène, quoi. Et ils sont silencieux, voilà. C'est quelque chose qui se voit, qui se lit. Et par contre, le comédien, lui, il est en pleine incarnation avec sa voix qu'on entend. Puis c'est ce frottement-là que j'aime bien, quoi.
Pendant 1h30, vous allez être toutes deux dans des capsules de survie, à peu près, d'après les photos que j'ai vues, 1 mètre cube, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus
c'est
grand.
C'est petit, il ne faut pas être claustro.
Ouais. Il ne faut pas être claustro. Il y a quoi dedans, justement, pour survivre pendant 1h30?
On s'est inspiré de pas mal de choses, mais donc, entre autres, un voyage qu'on avait fait en Islande avec mon copain, puis on avait été dans les fjords de l'Ouest, donc c'est des zones où il n'y a pas de route, il n'y a vraiment rien que de la nature et des randonneurs, quoi. On s'est un peu presque perdu pour la petite histoire. Donc on a vécu plusieurs jours sous la pluie, ça devenait un peu rude. Et puis on est tombé sur ces capsules de survie qui contiennent juste une radio au cas où, quelques boîtes de conserve et puis une couverture, une banquette et une table.
Il y a ceux qui vont en vacances à Rimini et il y a les autres. Ouais.
C'est ça.
Là, ça te donne l'idée comme ça, pouf, en face de cette capsule de survie, de mettre ça sur une scène à la chaux de fond.
En fait, je me sens assez bien dans ce petit espace qui a justement juste mon clavier, ma table. Finalement, j'ai pas de fenêtre, donc ça fait vraiment travailler l'imagination. Et puis après, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas évidemment pas seulement ce qu'on vit nous quand on le fait, mais c'est du point de vue du spectateur. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va pas voir un texte comme dans un livre qui est figé, qui est écrit une fois pour toutes, mais il va voir quelque chose en mouvement, quelque chose qui palpite, qui respire. Il va vraiment voir, les corrections. Non, en fait, c'est pas ce mot-là que je veux, c'est un autre. Donc je reviens, je corrige, je fais des fautes. Une idée m'en amène une autre. Puis tout ça, ça se développe sous nos yeux, en temps réel. Puis voilà, je trouve que là, il y a un intérêt, en fait.
Donc une performance d'écriture live, tu le disais, Antoinette Richner, dans des toutes petites capsules, ça rejoint un peu le mythe de l'écrivain solitaire qui parle du monde depuis sa tour d'ivoire. Alors que maintenant, on a plutôt l'idée que les jeunes écrivains écrivent depuis le café du coin, connectés directement à Facebook. Elle est où la réalité de l'écrivain roman là-dedans ?
Mais c'est un paradoxe, quoi. Bien sûr, on en joue de ce côté-là, on est reclus. D'ailleurs, c'est dans la fiction, ces personnages, ces deux filles qui veulent s'isoler, elles sont aussi un côté comique à vouloir absolument vivre leur expérience de solitude. Est-ce qu'on va pouvoir faire l'expérience jusqu'au bout, tout ça ? On est quand même dans un monde où, de toute façon, on ne peut pas s'isoler complètement. Moi, par exemple, dans la vie, j'ai restauré une petite roulotte sur le terrain à côté de la maison où j'habite. J'écris là-dedans, c'est mon bureau. Évidemment, je suis connectée, quoi. J'ai Wi-Fi. Moi, mon but, ce n'est pas de faire une tour d'ivoire. Après, ce qui va se passer dans ce spectacle, c'est que les choses, elles se retournent tout d'un coup. Ça devient super angoissant et la panique complète d'être vraiment déconnectée et puis d'être... Le rendez-vous avec soi-même, il tourne un petit peu à l'horreur, quoi.
Antoinette Richner, si tu devais entrer dans une vraie capsule de survie pour faire face à une vraie fin du monde, t'aurais besoin de quoi ? C'est quoi le strict nécessaire pour toi ?
Il faudrait que je fasse une liste de bouquins, je pense. Voilà.
Un peu des boîtes de conserve aussi, ou pas besoin si on a des bouquins ?
Ça serait pas mal d'avoir un peu d'eau, et puis un peu de bière, et puis qu'est-ce que j'aurais besoin ? Un duvet un peu chaud. Voilà.
Du lait chaud ?
Un duvet plutôt.
Ah, un duvet. Okay. Un programmateur de radio pour qu'il survive, lui, eh bien, il lui faut de la musique dans sa capsule.
Les cultures. Quels sont tu fais quand on te retourne ?
Antoinette Richner, Fabrice, notre programmateur, t'a trouvé un morceau spécial survie que tu pourrais podcaster, que tu pourras même podcaster depuis ta capsule jeudi prochain, okay. Juste avant la première de ton projet Frost. C'est l'heure de la chronique musicale.
Je ne connais strictement rien à l'univers de la capsule de survie, mais ça me fait peur. Parce qu'il n'y a rien de vivant dans un tel engin. C'est étroit, c'est carré, froid. On est seul face à ses craintes, ses angoisses. Le monde extérieur n'a plus aucune importance. J'ai l'impression qu'on peut être n'importe où, sur la Terre, ou perdu dans l'espace. Mais dans tous les cas, on espère survivre, alors qu'en réalité, on attend de crever. Je te propose une musique à la fois oppressante, métallique, intemporelle, mais qui semble avoir comme objectif de continuer, quoi qu'il arrive, comme une capsule de survie. C'est le morceau Freeze du duo LFO, un duo fondé par Mark Bell, dont on a appris récemment la disparition. Alors, t'avais plus de place dans ta capsule de survie ?
Par LFO, Mark Bell, le cofondateur de LFO, est mort la semaine dernière. Il avait 43 ans. Il avait notamment produit Björk à son apogée. Il était génial, mais discret, c'est ce qu'on raconte de lui. Elle est très vivante. Elle s'appelle Antoinette Richner. Elle est auteure et elle est dans les cultures bitacées.
Les cultures bitacées.
Frost démarre la semaine prochaine, un projet d'écriture en live, en direct de Capsule de survie. Le morceau de LFO, il t'aiderait dans ta capsule, Antoinette Richner?
Peut-être qu'au stade ultime, avant la mort cérébrale, ça me ferait planer, je m'aiderais. Mais comme on n'en est pas encore tout à fait là, je me dis que tant mieux qu'on n'ait pas trop de musique, parce qu'on pète très vite les plombs.
On va sortir de la capsule. Hein. Quel bruit fait l'écriture romande? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'elle a la reconnaissance qu'elle mérite?
un discret bruit de clapotis de clavier. Non, je pense que l'écriture en Suisse romande, elle est très riche. C'est un gros vivier. Il y a beaucoup d'auteurs dont j'apprécie le travail. Je trouve qu'il y a pas mal d'échanges aussi entre nous. Et puis elle est reconnue en tout cas dans son territoire par les médias. Je trouve qu'on a encore pas mal d'attention, disons.
T'as grandi dans ce terreau-là, Antoine Trichner. En quoi c'est différent d'être écrivain en Suisse romande?
Ben, ce qui est compliqué, je pense, c'est que le territoire est petit, donc le nombre de lecteurs est petit aussi. Et puis en fait, on a de la peine quand même à s'exporter, on a de la peine à se faire entendre ailleurs. Je crois que c'est là qu'il y a vraiment un gros boulot à faire. Et puis après, c'est vrai que j'ai parlé des médias, ben, je pense que dans la critique littéraire, elle a un peu tendance à disparaître aussi, ou alors à devenir super people, et puis finalement on parle plus du bouquin, on parle de voilà, comment ça se passe avec ton amoureux. Quoi.
Donc, la critique, ça vivifie un terreau comme l'écriture, d'après toi?
Oui, c'est important, parce que ça la fait connaître auprès des lecteurs, puis c'est aussi un retour qu'on a. Je pense que nous, on lance un bouquin comme une bouteille à la mer, puis on a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un à l'autre bout. Quoi.
Et si je te dis que tu es écrivain suisse parce que tu es vivante, parce que tu as des choses à dire, parce que la Suisse, ce n'est pas seulement les banques, les montres, le chocolat, ni le populisme d'extrême droite, tu me dis quoi?
Ça me rappelle vaguement quelque chose.
Ça te rappelle quoi?
Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Nous sommes vivants, justement. Et puis, on s'est aperçu, donc c'est cinq auteurs de théâtre, suisse romand, et on s'est aperçu que l'écriture de théâtre romande, elle était absolument méconnue en France. Bon, depuis, par exemple, en France, dans la francophonie, on s'est aperçu depuis que ça bougeait quand même un petit peu. Si je prends l'exemple du Festival des francophonies au Limousin, maintenant ils ont commencé à s'intéresser un petit peu, à inviter des auteurs romands, à faire des lectures de leurs textes. Et puis je trouve aussi que l'échange avec le reste de la francophonie marche bien. Moi, j'étais invitée à Montréal le printemps dernier, au Festival du Jamais Lu, qui est un super festival vraiment. Donc là, j'ai trouvé que oui, le réseautage, il commence. Puis on commence à savoir qu'il y a une existence d'auteurs suisses romands là.
Et toujours dans le but de mettre en valeur la création littéraire contemporaine, il y a 4 ans, avec Odile Cornu, dont on parlera aussi plus tard dans l'émission,
ouais,
tu fondes l'association Bête à Plume.
Oui, alors Bête à Plume, c'était pour produire ce qu'on appelle les jukebox littéraires, qui sont un concept qu'on a un petit peu emprunté à David Lescaut, qui est un auteur français. Puis on l'a fait vraiment à notre sauce, c'est-à-dire que c'est le concept, donc c'est 5 auteurs sur scène avec leur ordi, leur bouquin, toute leur œuvre complète. Et puis on a Robert Sandeau qui est musicien, bonimenteur, qui fait le lien avec le public, et il va demander aux spectateurs, auditeurs, un mot. Chaque auditeur donne un mot. Et puis après, c'est un peu le jeu dans les auteurs, au premier auteur qui va trouver un petit texte ou un fragment de texte, un extrait en lien avec ce mot. Donc il y a un côté concurrence, compétition, quoi, mais il y a...
Et le public a des jetons qu'il peut donner, comme dans un jukebox.
Exactement, ouais. Un jukebox, un mot. Et puis du coup, ça offre comme une sorte de petit plateau garni de toute notre écriture, puis c'est toujours très très sympa à faire.
Un jukebox littéraire avec quand même la secrète intention de dynamiser un peu les soirées lectures qui étaient plus très à la mode.
Bon, moi, je pense, j'ai rien contre une bonne vieille lecture où on écoute un auteur, un texte, ça permet de se plonger en immersion dedans, ça peut être très beau, quoi, suivant comment c'est fait, suivant voilà, la qualité d'écoute. Après, là, c'est vrai que l'idée, c'était de trouver un truc interactif, puis en fait, ça marche bien, parce que les gens, quand ils donnent un mot, ils ont une attente, en fait, ils en veulent pour leur argent, ils en veulent pour leur mot, puis du coup, c'est plus actif, puis c'est plus rigolo à faire, ouais, à écouter.
Écoutez, aussi le stylo ou le jukebox, t'as pas toujours ça entre les mains. Parfois, tu prends un bâton avec le sourire. En tant que rédactrice invitée des Cultures Bitassées, tu nous as emmenés sur le terrain du rap freestyle, presque de force. C'est Steve qui nous revient pour nous livrer sa chronique.
Les Cultures Bitassées. La chronique. Oui, celle que tu as commandée.
Mans One, c'est le nom du rappeur qui t'avait chamboulé et dont tu voulais qu'on parle, Antoine Trichner. Qu'est-ce qui s'était passé quand tu l'avais vu improviser du hip-hop en plein milieu des Franches-Montagnes?
J'avais trouvé ça complètement fou, en fait. Puis c'est vrai qu'on bosse les deux avec les mots, moi dans l'écrit, puis lui avec cette oralité incroyable, hyper immédiate comme ça. Puis sa façon de jongler, d'avoir vraiment le flux de paroles, ça m'avait scotché vraiment, parce que surtout que moi, avec l'écrit, j'encule les mouches, je suis toujours en train de me dire, bah, je sais pas, je reprends 15 fois un texte, je me dis en fait, cette virgule, pourquoi, comment, est-ce que je la déplace. Puis là, je voyais ce mec qui avait les mots qui lui jaillissaient de la bouche, puis ça m'avait scotché.
Manswan, c'est un jeune voix, rappeur, freestyler. Steve nous emmène dans son monde.
Nous sommes au cœur de la jungle urbaine, là où les zébrures sont sur les ceintures et les griffes sur les ghetto blasters. Dans cette forêt d'immeubles en béton se cache une espèce rare de la famille des rappeurs, du genre MC, Master of Ceremony, les freestylers.
Tu peux continuer, ce soir je te laisserai faire et moi je me ferai pas huer, tiens.
Boulot !
Le freestyler est au rappeur ce que l'improvisateur est au comédien. Un animal qui se nourrit de tout ce qui lui passe par la tête ou qui l'entoure pour créer des textes instantanés. Il peut par exemple s'arrêter sur une proie et s'amuser à la décrire en rime, en rythme et en malice. À la saison des amours ont lieu de grands rassemblements de freestylers, par exemple dans les plaines du festival End of the Week. Les rappeurs se réunissent alors par troupeaux entiers et se défient dans diverses épreuves afin de déterminer qui sera le mâle ou la femelle dominante. Les freestylers peuvent s'adonner par exemple à une improvisation libre, une improvisation avec trois mots imposés par le jury, ou au freestyle bag, un grand sac dans lequel l'artiste doit puiser des objets à l'aveugle avec lesquels créer.
Ne bougez pas et ne faites pas de bruit. Regardez, voilà justement un freestyler qui est venu s'abreuver dans cette gouille d'eau. C'est une chance unique. Allons lui parler.
Mans, salut.
Allô.
Tu es rappeur de la race des freestylers. Ça veut dire qu'il t'arrive parfois de sortir du confort de tes chansons pour faire de l'improvisation. Il y a même parfois des sessions où tu ne fais que ça. Alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu te transformes en freestyler ?
Alors c'est quelque chose, je dirais, qui s'entraîne quand même depuis pas mal d'années, parce que j'ai commencé le rap il y a une quinzaine d'années maintenant, en ayant toujours voilà, des moments où on écrit, puis des moments aussi où avec des amis on essaie d'improviser des choses. Donc c'est deux dimensions assez différentes, mais qui se rejoignent avec la pratique. C'est-à-dire que quand on commence à maîtriser justement le freestyle, on écrit au fur et à mesure. Donc on a un peu une écriture qui se fait sur le moment. Bah, l'esprit, au lieu de parler... En prose, parle en rime et puis poursuit ce qu'il a envie de dire. Donc c'est un petit peu ça qui se passe maintenant.
Et il faut que ça rime, il faut que ça colle à l'instrumental, que ce soit sensé aussi. C'est quoi la priorité quand on se lance là-dedans ?
Ben, ce qui se passe, c'est que par rapport au texte où on va beaucoup le juger, dès qu'on est en freestyle, il y a aussi quelque chose d'une certaine spontanéité qui arrive aux yeux des auditeurs. Et du coup, les choses aussi un peu maladroites ou simplement sincères passent aussi très bien. Il peut arriver que même des gens qui ne maîtrisent pas forcément la métrique et puis la rime font des choses très très touchantes qui marquent le public. Voilà, le freestyle avec une certaine voilà, c'est comme aussi un certain lâcher prise qui se passe pour le rappeur, que tout à coup il est aussi vulnérable parce qu'on ne sait pas vraiment, voilà, il ne sait pas tout à fait où est-ce qu'il va aller puis qu'est-ce qui va se produire.
Il existe quand même des béquilles dans le freestyle, ça s'appelle les phases. Tu nous expliques ce que c'est?
Bon, les phases, c'est qu'à force de le faire, on sait que chaise rime avec balèze, table, cartable, voilà. Donc on a un peu des réflexes qui viennent. C'est un peu comme un danseur ou un sportif qui sait que voilà, s'il tombe sur le pied droit, il y aura le pied gauche qui va venir. Donc après, c'est, je pense à port de pratique, les phases, c'est un petit peu des choses qu'on a à l'habitude. Puis on sait que s'il y a telle situation, ben on peut sortir cette phase parce qu'on l'a déjà éprouvée. Mais ça, ça vient avec la pratique.
On peut terminer sur une petite démo à la rigueur, te mettre directement en condition.
Mm-hmm.
Je te cite trois mots et puis je te laisse improviser sur un tempo que je te laisserai te créer dans ta tête.
Uh-huh.
On fait comme ça ?
Ouais, d'accord.
D'accord, alors les trois mots, les voici. Culture, griffe et cervelas.
Bon, on t'a dit, mais donc qui met voilà, c'est Manswan, le MC, non pas le cerveau là. Je te sers voilà quelques rimes pour ta radio, représente sur le son, j'espère que tu es radieux. Comme le soleil aujourd'hui, en tout cas à Genève, je représente sur le son, je suis dans ma classe, mais il n'y a pas d'élèves. Donc ça résonne par la fenêtre en bif, je biffe ton nom sur ma liste et je mets ma petite griffe. Mon griffe, M-A-N-S, tu sais que c'est Manswan, je représente dans la place et tu sais que l'ambiance est bonne. Hein, je fais mon texte et voix, pas de rature, je représente pour Radio Griffe et voici la culture.
Les cultures bitassées.
Manswan, rappeur genevois, il était le premier champion roman de rap freestyle. Depuis l'an passé, on peut aussi l'écouter sur un album qui s'appelle The U-Turn. Et puis, là, on te voyait l'entendre une deuxième fois, Antoine Etrichner. Qu'est-ce que ça provoque chez toi?
C'est pas mal, non, sa petite impro de la fin, là. Bon, je fais pas un, je suis dans la place. Mais je cherche aussi, dans ma capsule, dans le cadre de Frost, là, je suis aussi un peu dans la perfo de l'impro. Et puis, ça m'intéresse, tout ce qu'elle raconte sur le lâcher-prise, sur le sortir du confort. Ça me parle.
Et dans le rap freestyle, il y a des phases, des espèces de canevas qu'on peut reprendre ou on peut se replonger. Dans le projet d'écriture live que tu proposes, Frost, il y a aussi des sortes de garde-fous.
Oui, oui, bien sûr, il y a des repères, il y a un scénario qui est une structure qui est préexiste et puis c'est à l'intérieur de ça qu'on s'est donné comme des petites cartes blanches en fait.
Et comment on y arrive dans cette capsule d'écriture live? Par où on passe et à quoi on doit survivre pour être une auteure en romandie? Avant de la quitter, on refera le portrait de l'auteur Antoine Etrichner.
Les cultures bitassées.
Dans ton parcours, Antoine Etrichner, il y a un truc incroyablement rare, assez rare pour être mentionné, c'est que tu as commencé par la technique de scène.
Eh ouais, c'est vrai.
Comment ça se passe?
J'ai commencé comme accessoiriste à l'Opéra de Lausanne, donc voilà, c'était suivre les répétitions, amener le verre d'eau au soliste, voilà, préparer un bouclier dans les ateliers, vite vite, et puis lui amener en répète. Après, je suis passée un peu par toutes sortes de choses, des lights, un petit peu le son aussi. J'ai bossé dans des plus petites structures où je devais faire pas mal de choses, accueillir des spectacles en fait, puis leur mettre à dispo la technique.
Ce qui est rare, c'est pas tant que tu aies commencé par la technique, parce que ça arrive, mais dans la hiérarchie du monde du spectacle, on a l'impression que les techniciens sont les manuels, les autres sont les cérébraux, et il y a bien des auteurs qui auraient essayé de cacher ça, ou en tout cas de ne pas le mettre en avant. Toi, tu décides clairement, dans tes présentations qu'on peut lire, de le mettre en avant.
Je pense que la hiérarchie, elle existe, ça dépend où et pour qui, en fait. Elle existe, c'est vrai, dans les grosses structures comme à l'opéra, elle est très claire, il y a la caste des techniciens, la caste des artistes. Mais après, dans des structures plus petites et puis plus intéressantes aussi, les choses, elles se mélangent. Et puis, ma foi, je me dis, pour ceux qui ont la hiérarchie en tête, tant pis pour eux, quoi.
Toi, tu as toujours mélangé le tournevis et le stylo, tu les as empoignés plus ou moins dans le même temps?
Là, ça fait plusieurs années quand même que je ne fais plus du tout de technique, donc j'ai un peu perdu la main, je pense.
Mais au début, on ne devient pas auteur d'un jour à l'autre, c'est que tu écrivais déjà quand tu étais technicienne.
Oui, j'ai écrit depuis que j'étais à l'école primaire, j'ai toujours écrit mes petites fictions, quoi. Mais après, le déclic, ça a été quand j'ai fait l'Institut littéraire suisse à Bienne. J'ai fait 3 ans de formation, puis comme là, l'écriture, elle était tout le temps au centre, ça m'a vraiment orientée là-dessus.
Justement, l'Institut littéraire suisse, comment est-ce qu'on en sort de cet institut? Est-ce que ça a changé ta façon d'écrire?
Les gens se moquent toujours de nous avec le diplôme. Ah, t'es une auteure diplômée. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas le titre, quoi. Le titre, tu le ranges dans un tiroir, puis c'est réglé. Mais c'était plutôt ces 3 ans, en fait, où on a pu expérimenter plein d'écritures avec plein d'intervenants différents. Puis oui, ça a radicalement changé ma façon d'aborder les choses.
En quoi?
Déjà, je suis nettement moins vite satisfaite d'un texte. En fait, ça m'a appris à désacraliser le premier jet, puis à rebosser, voilà. À trouver d'autres façons de faire évoluer un texte. Quoi.
C'est un vrai syndrome de débutant, ça, l'espèce de fierté du premier jeu.
Ouais, je pense, parce que c'est le fait d'écrire, ça touche quand même quelque chose de très intime, et puis assez... je suis pas psychiatre, quoi. Est-ce que c'est l'inconscient, j'en sais rien, mais on est quand même dans un état particulier, on le ressent, et puis je pense que ça nous touche intimement, donc il faut apprendre à se mettre dans cet état-là pour produire un premier jet, puis après, on retourne sa casquette, on essaie de regarder objectivement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et de faire avancer le truc.
Est-ce qu'il t'arrive de regretter d'être passé par l'Institut littéraire dans des courts moments, de te dire que t'as perdu un peu de spontanéité, ou que tu as davantage peur du danger maintenant?
Non, j'ai jamais regretté, au contraire, en fait. Ça m'a appris aussi à faire évoluer plusieurs chantiers en même temps. Si j'ai des commandes différentes, je panique pas, puis j'arrive à plus ou moins gérer.
T'as...
été à l'Institut littéraire, mais tu as aussi gagné des prix, le prix Pigeon notamment, le prix interrégional des jeunes auteurs, un prix qui est encore décerné aujourd'hui. Toi, tu l'as gagné il y a 15 ans. En 2011, tu as aussi raflé le grand prix culturel Migros. En 2012, tu décrochais la bourse de la Société suisse des auteurs. Le palmarès est exact, c'est juste.
Bravo.
Et ça représente quoi dans l'existence d'un auteur, tous ces prix qui naviguent autour de lui?
D'un point de vue symbolique, c'est de la reconnaissance. Il y a des gens qui font attention à nous. Je pense surtout le premier que tu as cité, Pija, c'est entre 15 et 20 ans. Hein. Donc c'est vraiment un moment où tu te cherches à fond et puis tout à coup, quelqu'un te dit ce que tu as fait mérite notre attention. C'est pas rien en fait. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération de gens qui ont reçu ce Pija qui par la suite ont continué dans la littérature. Donc je pense que c'est quand même un signe.
Pour toi, Antoinette Richner, c'était fondateur de ce qui a suivi?
J'ai l'impression que c'était en tout cas une étape, ce Pigeon, ouais, c'était quelque chose d'important. Mais après, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus l'aspect matériel, c'est-à-dire qu'un prix, souvent, c'est de l'argent. Puis, comme auteur, c'est hyper difficile de gagner avec les livres, on ne gagne rien avec les livres, donc il faut trouver d'autres stratégies. Donc les prix, les commandes, les bourses, c'est hyper important.
Est-ce que ça n'enlève pas un peu de liberté, du coup, d'un point de vue extérieur? On a l'impression que des auteurs peuvent passer leur temps à remplir des dossiers pour éventuellement gagner des prix, alors qu'ils pourraient le passer à écrire dans une liberté totale et absolue.
Il y a plusieurs genres de prix. Il y a les prix qui récompensent après coup une œuvre existante. Puis il y a effectivement les bourses de travail. Donc là, c'est clair, c'est du boulot, les dossiers. Donc, mais je pense que ce n'est pas que les auteurs. C'est n'importe quel artiste. Il est coincé dans ce truc-là, aussi administratif, aussi se vendre, faire des dossiers, chercher des fonds. Et puis créer, donc on doit avoir en même temps un petit peu l'imaginaire connecté au ciel et puis avoir quand même les racines bien sur terre pour que ça avance financièrement, que les choses puissent être produites, quoi. Donc il faut faire attention aussi de ne pas se faire bouffer par cet aspect-là, je pense.
Le prix littéraire, ça t'intéresse non seulement en tant qu'auteur qui peut en gagner, mais en tant que fond, que matière à roman?
Bah ouais. C'est vrai que je vais avoir bientôt un premier roman qui sort en janvier, en fait. Et puis, il s'appelle Le Prix. C'est en fait un héros qui est sculpteur et qui rêve absolument de gagner un prix de sculpture. Et il pète un plomb parce qu'il n'arrive jamais à gagner ce prix.
Une sorte de métaphore de la reconnaissance générale dans l'art?
Oui, déjà ça, je pense qu'il y a une première lecture dans ce sens-là, le besoin de reconnaissance, le besoin qu'on nous dise « mais oui, tu es artiste, mais oui, c'est super ce que tu fais ». Et puis, sur un autre plan, je pense qu'on peut le lire de façon plus large, c'est comme la recherche du bonheur, quoi. C'est l'objectif qu'on veut absolument atteindre, et puis finalement, à se crisper tellement à vouloir l'atteindre, on ne l'atteint pas.
Quel prix t'espères décrocher avec ce roman qui s'appellera Le Prix?
J'ai vu qu'il existait le prix des prix, je me suis dit que c'était pas mal.
Ah, c'est bien possible. Dans le vaste monde des cultures bitacées, rien ne se perd, rien ne se crée. Avant la fin de l'heure, nous, ce qu'on va créer, c'est un chroniqueur. Mike, oui, on le crée avec un livre dans les mains, c'est plus joli.
Griffe, les cultures bitacées.
À quel moment de la nuit rêves-tu de moi et dans quelle position? As-tu besoin de crier pour te faire entendre? Quel est le côté de l'éponge que tu utilises le plus souvent? Que veux-tu savoir? Payes-tu des impôts ecclésiastiques? Odile Cornu pose des centaines de questions dans son dernier ouvrage.
Les cultures bitacées. La chronique. Oui, encore une pour toi. Gratos.
Pourquoi veux-tu que ça rime? C'est le titre du livre d'Odile Cornu, paru cette année. Antoinette Richner, quand il s'agissait de nous envoyer fouiller le terrain de la culture, tu nous as envoyé chez Odile Cornu. Pourquoi?
Parce que c'est une auteure pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et puis j'ai adoré ce dernier bouquin, Pourquoi veux-tu que ça rime? Pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que quand tu lis ça, ça te rend actif. En fait, tu réponds aux questions, évidemment. Mais tu réponds pour toi, mais pas seulement, pour d'autres, pour ton amoureux, tes enfants, ce que tu veux. Et puis, je trouve aussi que la différence des registres, comme elle est mélangée, je sais pas, dans l'extrait que tu as lu, l'éponge, et puis dans quelle position tu dors. Puis au final, je trouve que ce que ça raconte, c'est que la vie, ou disons la vie d'une personne, c'est pas les grandes lignes biographiques comme on raconte à un enterrement. Il a eu tel métier, il a eu telle épouse, il a eu telle fonction. Mais c'est une espèce de mosaïque de plein de petites choses. Puis ça, je trouve qu'elle le fait à merveille, en fait.
Mais c'est pas normal, parce que normalement, quand t'es à côté d'une auteure qui a le même âge que toi, qui sévit à peu près sur le même territoire, Antoinette Richner, tu devrais
être jalouse,
évidemment. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas comme ça?
Ça doit être l'amitié, je pense.
C'est ça. Il y en a un qui ne se prend pas pour n'importe qui, c'est Mike, c'est notre chroniqueur, à tel point que quand on lui demande de lire le dernier ouvrage d'Odile Cornu, il croit instantanément qu'il a un rapport privilégié avec l'auteur.
Les culturbitacées.
Pourquoi veux-tu que ça rime ? Me demande Odile Cornu. J'ai envie de te demander, Odile, pourquoi toutes ces questions ? Je ne te connais que depuis une page de couverture que déjà tu me questionnes. Drôle de façon de faire connaissance avec le lecteur d'ailleurs. N'est-il pas bizarre qu'un auteur essaie de vous connaître ? En même temps, est-ce vraiment toi qui me questionne ? Et est-ce vraiment moi, l'homme du livre à qui ces comment et ces pourquoi sont adressés ? Et si ce n'est pas moi ? Qui est-ce ? Que sait-on de lui à part que c'est un homme avec un dos qui sourit ? Et si cette femme n'est pas toi ? Qui est-ce ? Que sait-on d'elle à part que c'est une femme avec un petit bourrelet de chair qui se forme au-dessus du talon quand son pied est posé sur la pointe ? À part qu'elle se souvient vaguement de la règle du triangle rectangle ? Peut-on en savoir plus ? Oui ? Peut-être. Non. Tu ne veux pas m'en dire plus, Odile ? Très bien. Alors je me retourne vers toi, Antoinette Richner. Est-ce toi la femme de ce bouquin ? Et toi qui nous écoutes maintenant avec cette mine qui semble dire « Bordel, je comprends rien du tout à ce qui est en train de se passer. » Est-ce toi l'homme du livre à qui toutes ces questions sont posées ? Est-ce toi la femme de ce livre qu'on découvre entre deux questions ? Je ne sais plus trop quoi penser. Franchement, Odile Cornu, à quoi cela rime-t-il ?
La réponse est dans le titre. Pourquoi veux-tu que ça rime ?
Trois pages de délicieuses questions, pour au moins autant d'insomnie hein, si on se les pose vraiment toutes une à une. Et en bonus, quelques réponses. C'est Pourquoi veux-tu que ça rime ? C'est le dernier ouvrage d'Odile Cornu, paru aux éditions D'autre part, c'était au printemps. Antoinette Richner, puisque c'est toi la patronne des culturbitacées, puisque c'est toi qui as mis le bouquin entre nos mains, et puisque le bouquin déborde de questions, eh bien tu vas devoir faire face au retour de Manivelle. C'est ce qui t'attend. Tu vas devoir répondre à quelques-unes des questions d'Odile Cornu.
Oula.
La première, c'est est-ce que tu votes ?
Oui, je vote. Ouais.
Facile. On ne pourra pas vérifier. Que fais-tu dans les salles d'attente ?
Je sors mon bouquin de mon sac et je m'y mets.
Mais c'est un cliché pour une auteure.
Bah, j'assume.
T'arrive-t-il d'être fascinée par les actes kamikazes ?
Oui, bien sûr. Typiquement, les vidéos du 11 septembre, c'est aussi fascinant que tragique. Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce qui te fascine là-dedans ?
Je pense que nous, on est dans une société où le moindre petit bobo, on court à la pharmacie, on a très peur de la mort, on n'a pas ce courage fou. Et puis, c'est cette espèce de radicalité complètement barge qui me questionne. Quoi.
Dernière question à la mode Odile Cornu. Est-ce que, Antoinette Richner, tu supportes les adieux ?
Ouais, j'ai du mal quand même. Ça m'arrive de verser une larme en montant dans un train, par exemple.
Tu vas devoir t'y faire parce que tu vas devoir nous quitter, Antoinette Richner. Peut-être verseras-tu une larme, on ne sait pas. C'est pas facile hein, pour nous non plus. On te laisse en sursis 3 minutes pour nous écrire une lettre d'adieu. Oui, c'est notre requête.
Les cultures bitacées.
Frost, un concept imaginé par Antoinette Richner, un grand concept qui tient dans un mètre cube, pourrait-on dire, un mètre cube dans lequel elle écrira en live jeudi prochain. C'est présenté la semaine prochaine au Temple Allemand, à la Chaux-de-Fonds. Et on te laisse y retourner, Antoinette, mais pas avant de t'avoir dit au revoir comme il faut. Comme il faut, ça peut être par exemple avec des mots.
Fini. Terminé. On fait quoi maintenant ?
C'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se console. Et pour nous consoler, tu nous as préparé une lettre d'adieu, Antoinette Richner.
Une lettre, c'est beaucoup dire, mais c'est parti. Ici, on fume. J'ai lu un soir sur un panneau de la vitrine d'un bistrot. Et j'ai su que c'était ici, à Port-en-Truy, qu'on trouve les rebelles qui s'assument. Et qu'à jamais, je leur devrai mon putain de respect.
Waouh ! C'est carrément du freestyle, du rap freestyle, ça a quelque chose de ça. Merci d'être passé nous voir dans les studios de Griffes, Antoinette Richner. Julie Gilbert, et toi pour voir vos textes en live. C'est du 23 au 26 octobre. Ça s'appelle Frost et on trouve évidemment toutes les infos sur ton site qui répond au nom charmant de toinette.ch.
Exactement.
Avec un N et deux T. Merci, à bientôt, bonne rentrée.
Salut, merci.
Et au rayon des infos, sachez aussi que Mans One, le rappeur freestyle qu'on a rencontré grâce à ta demande, Antoinette Richner, eh bien Mans One nous a remué au point qu'il sera lundi prochain dans l'émission des 4 jeudis à 11h pour l'interview dans son intégralité. Oui, c'est comme ça, la rédactrice en chef des Cultures Bitacées que tu étais, Antoinette Richner, bah, t'as un peu redessiné l'entièreté de notre grille des programmes de la semaine. Voilà, bravo.
J'en suis heureuse.
La semaine prochaine, Mélanie accueillera Jessica Harpin. Quand Jessica Harpin n'est pas sur son vélo de cirque, ni sous un chapiteau, elle est en roue libre sur notre répondeur, ici, juste là. Ciao.
Les Cultures Bitacées.
Dans une semaine. Dans 7 jours. Dans 167 heures.
Bonjour, je m'appelle Jessica Harpin, je suis artiste de cirque. Si vous êtes intéressé par le cirque, par les Inuits, par l'Italie, par les bicyclettes, je viendrai dans les Cultures Bitacées le 22 octobre. Cette émission avec moi sera vraiment géniale parce que le 25 octobre aura lieu la 3e édition de Rue Libre de la Fédération des Arts de la Rive Suisse. Ouv keva el rap od iugir homoj rotidos resh. Chers auditeurs, je me réjouis de parler avec vous.